Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La balade du dimanche avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Allez-vous bien ce matin?
Très bien, en votre compagnie. Bon. Bonjour à tous.
Alors ce matin, Vanessa, on se balade en Ile-de-France, à Boulogne-Billancourt, tout près de Paris, pour découvrir le nouveau musée Albert Kahn qui a rouvert ses portes hier. Hein.
Ouais, 6 ans de travaux. Et ça valait la peine d'attendre, vraiment. Ouais. C'est un projet architectural, culturel et même philosophique, très puissant. Mmh. Donc moi, je vous invite évidemment à faire une escapade un peu particulière. Aujourd'hui, on va faire un voyage autour de la planète, mais tout en restant en Île-de-France. C'est le monde qui s'offre à vous, à nous et en images. Magali Mélandry, qui est la directrice déléguée donc à la conservation au musée départemental Albert Kahn, nous plonge au cœur de ce monde.
Vous êtes ici immergé au cœur de la collection des archives de la planète, dans ce grand cylindre qui permet, grâce à des écrans très grands format, de voir sous vos yeux défiler à la fois les autochromes, donc cette première photographie couleur qui est une invention des frères Lumière du tout début du XXe siècle, et des films noir et blanc et muet. Albert Kahn utilise ces deux techniques novatrices pour son projet des archives de la planète qui va permettre à une douzaine d'opérateurs, cinéma et photo, de parcourir près d'une cinquantaine de pays de 1909 à 1931 pour enregistrer les réalités du monde, fixer cette diversité des cultures comme une archive, une mémoire du monde à transmettre aux générations futures.
Mmh. C'est très prenant parce qu'en effet, il a enregistré le monde par l'image. Les photos sont incroyables. Et bon, vous avez compris que derrière, c'était éveiller les consciences, mettre l'accent sur l'importance et les différences des cultures dans le but d'une meilleure entente entre les peuples. Et à l'époque, c'est vrai que c'était primordial parce qu'on était vraiment aux prémices de la mondialisation. On était dans un monde en pleine transformation. Bien sûr, c'était très pertinent.
Et on voyage plus dans un pays que dans plusieurs pays. Comment ça se passe?
Alors non, parce que lui, c'était plus l'expérience du voyage qui primait sur le pays. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup voyagé pour ses affaires. Il a même fait un tour du monde aussi. Mais il a une affinité particulière avec le Japon, qu'il a découvert via ses évidemment affaires, mais sur le plan amical aussi, il a même reçu la famille impériale japonaise à Boulogne, et puis sur le plan culturel, spirituel, puisqu'il va même créer des jardins, un bout de terre japonaise avec ses maisons traditionnelles posées dans cette nature qu'il a fait dessiner, modeler par un chef jardinier japonais lui-même, et un lieu dans lequel il se ressource. Donc il y a toujours ces rivières, les rivières sèches aussi, les petits ponts, donc ce Japon miniature, toujours aussi parfait pour se détendre, pour la méditation.
Parfait Vanessa, mais ce nouveau musée qui arrive au milieu de ces jardins, ça doit faire tâche un peu, ça doit trancher quand même, non?
En fait, non, justement. Ah oui. Et quand je vous disais que c'est un projet puissant, c'est parce que l'architecture contemporaine elle-même est puissante. C'est un dialogue avec la nature. C'est un grand architecte japonais qui s'appelle Kengo Kuma, à qui l'on doit ces 7 écrins. Et lui, il a su vraiment donner une relecture contemporaine justement de la fascination qu'Albert Kahn avait pour le Japon. Et en particulier avec les Engawa. Les Engawa, c'était ces petites plateformes qui sont toujours ces petites plateformes qui font la transition entre l'intérieur et l'extérieur des maisons traditionnelles japonaises. Donc ce sont des petits espaces de contemplation, comme des petites terrasses.
Parfait, une petite adresse aller pour rester dans cette balade cosmopolite.
Et ben on va pas très très loin, on va dans le 16e à Paris. Ouais. Figurez-vous qu'il existe une maison d'hôte à Paris. C'est assez rare, hein. Il y en a que 2 ou 3. Ça s'appelle le Sourire de Passy, un hôtel particulier de 1909. C'est très élégant, avec un kiosque sur le toit terrasse. Et toutes les chambres ont été thématisées autour des différentes cultures. Donc chaque chambre est un pays, est un voyage. Et c'est accessible, ce n'est pas très cher, à partir de 150 € à Paris. Avec le petit déjeuner compris, c'est pas mal.
Alors Marion Sauveur, à présent, avec vous, on part dans l'Isère.
Oui, j'avais envie de vous faire découvrir ou redécouvrir un fromage du Dauphiné, un petit fromage cylindrique. À la croûte légèrement plissée, il ressemble à un fromage de chèvre, mais c'est un fromage vache. Ouais. C'est le Saint-Marcelin qui possède une indication géographique protégée. Bah alors Et c'est aujourd'hui la fête du Saint-Marcelin à Saint-Marcelin dans l'Isère. Il y aura notamment des dégustations, comme ici dans le studio, ils sont en train de se battre pour déguster. Alors il peut être très coulant ou plus sec en fonction de son affinage. C'est l'étape de séchage plus ou moins longue qui va déterminer donc la souplesse de ce fromage avant le passage dans la cave d'affinage qu'on appelle le haloir où les fromages vont alors développer tous leurs arômes. Comment ils sont ces fromages?
Très très bon.
Vous avez deux fromages différents, de la fromagerie de Rochasse à Quercieux-sur-Isère. Et donc ils ont un affinage entre 10 et 21 jours en fonction de s'ils sont plus ou moins secs, justement. Et ce Saint-Marcellin est fabriqué dans les départements de l'Isère, de la Drôme et de la Savoie, dans 17 fromageries.
Ah, ça te lance une journée. Hein.
Mais c'est bien au cœur des fermes de l'Isère qu'il est né. Ce sont les femmes qui les réalisaient d'abord pour les manger en famille, avant de les vendre tout simplement sur les marchés. Et ça ne date pas d'hier, comme me l'a raconté Sylvie Colombier-Marion du comité pour le Saint-Marcellin.
On retrouve les premières mentions au 15e siècle et les premiers Saint-Marcellin. On appelait ça des petites tomes au début. Et en fait, il a commencé à être vendu à Saint-Marcellin. Et du coup, il a pris assez naturellement le nom de la ville. Au tout départ, il était a priori fait au lait de chèvre. Puis ensuite, il a rapidement été fait sur un lait de mélange. On a mélangé la chèvre et la vache. Puis en fait, avec l'évolution de l'agriculture, la transformation de l'agriculture sur la zone où il était fabriqué, les chèvres ont rapidement disparu et c'est les vaches qui se sont installées. Et du coup, il a fini par être produit uniquement au lait de vache.
Voilà, des vaches principalement montbéliardes et qui pâturent au moins 180 jours par an.
Je vous parle de loin parce que, bon, mais... comment on
mais
le cuisine
bon,
alors.
C'est délicieux.
C'est très bon, mais c'est très
j'adore
bon.
Le moelleux. Moi.
On le mange déjà sur un plateau de fromage, bien sûr, pour qu'il soit parfait pour la dégustation. On le sort une heure avant, ça c'est important. Et puis côté cuisine, la spécialité en Isère, c'est la marceline, un Saint-Marcellin entouré de lard et recouvert de pâte feuilletée. On met ça au four et le fromage dégouline quand on le mange. Voilà. C'est une recette bien gourmande. Pour changer un peu, je vous propose une tartine printanière au Saint-Marcellin. Donc on va faire revenir quelques lardons à la poêle. On ajoute des petites asperges vertes coupées en tronçons. C'est la saison, j'aime bien les asperges en ce moment. Sur une tranche de pain de campagne, on va déposer ces lardons, ces asperges par-dessus du Saint-Marcellin et on passe la tartine au four une dizaine de minutes. C'est tout. C'est pas compliqué. Ça se découpe à l'apéritif. Ça se mange.
On peut faire. Mais faut ranger la cuisine après. Là, on a entendu qu'il y avait un peu de bazar.
Ouais, c'est gras en plus. Allez, merci Marion Sauveur. On retrouve bien sûr votre recette sur europa.fr et le podcast de cette balade sous le nom Week-end Évasion. Que votre dimanche soit doux.
Bon dimanche à vous.
Bon dimanche à tous.